Nicolas Brunetti, bonjour. Vous êtes représentant d'une association d'aide aux migrants qui s'appelle Collective Aide. Et vous rentrez de Calais, j'imagine, il y a quelques jours, parce que vous étiez encore engagé sur place. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté au vu de l'éclairage, en particulier dramatique, qu'on a eu ces derniers jours, puisque ceux qui ont voulu traverser la Manche, on a vu que ça faisait à la sortie un petit peu plus de 27 morts. Donc j'imagine que la situation est toujours dramatique là-bas sur place.
La situation est en effet très dramatique. C'est une détresse au quotidien. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter dans mon témoignage. Calais, ça fait des années qu'on en entend parler, qu'on sait que c'est une crise, qu'il y a des gens qui dorment dehors, qu'il y a de la violence, qu'il y a de la détresse. Mais il y a quelque chose qu'on ne se rend pas bien compte, c'est à quel point cette détresse est quotidienne, permanente et instrumentalisée par l'État. Là, vous avez parlé du drame du 24 novembre, des 27 personnes qui se sont noyées, femmes, enfants, des hommes. Mais la traversée, c'est la fin du trajet pour eux, l'Angleterre étant leur destination favorite. La traversée, c'est ce qui arrive après des mois, des semaines, parfois des années de souffrance et de persécution, de maltraitance. Au quotidien, ça va être un harcèlement policier, ça va être le vol, la destruction, des faits personnels. Là, ce matin, nous on voit bien, il faisait froid, on a dû déneiger les voitures. Là, il y a des gens qui dorment dehors.
Tout ce qu'ils ont subi, quels que soient un peu les états traversés, parce que j'imagine qu'avant d'arriver en France, ils ont subi peut-être le même genre de choses.
À Calais, en ce moment, à peu près 1500 personnes. La plupart viennent du Soudan, d'Érythrée, quelques Afghans, des Syriens. La plupart fuient des régimes dictatoriaux, fuient la guerre. L'Afghanistan, on a plus besoin de le présenter. La Syrie, on est tous au courant de ce qui se passe. Le Soudan, le coup d'État a eu encore des rebondissements tout récemment. C'est des gens qui sont déjà extrêmement vulnérables, qui vont être à la merci des passeurs. C'est des endroits, des traversées très dangereuses. Ils mettent en danger leur vie, leurs proches.
Alors pourquoi l'Angleterre, justement, les attire comme ça? Est-ce que c'est plus facile de s'intégrer là-bas, d'être reçu? Parce qu'on a l'impression que ça se ferme aussi en Angleterre.
L'Angleterre a de plus en plus une politique très dure et même contraire au droit international. Ils sont en train d'essayer de pratiquer des refoulements, du coup de demander aux gardes-côtes de faire des vagues pour retourner les embarcations, les faire retourner vers les côtes continentales. Et quand on voit justement déjà la traversée, à quel point elle est dangereuse pour les gens, quand tout se passe bien, on n'a pas besoin du coup de jet ski qui viennent faire des vagues. Mais l'Angleterre a longtemps été vue comme un Eldorado pour ces gens, un peu le dernier ressource. Ils ont des fois des connaissances déjà là-bas, ils parlent anglais. Il y avait une certaine tolérance qui était pratiquée pour pouvoir du coup travailler de manière dans le marché souterrain, travailler au noir. Il y a toujours des traversées qui sont faites, mais les politiques d'accueil sont de plus en plus dures et c'est clairement pas une solution idéale. Mais ça fait quand même rêver. Et quand on a traversé la moitié du monde, qu'on a fui des dictatures, la misère, qu'on avait passé par la Libye, où il y a encore des marchés aux esclaves qui ont été remis, traverser la Manche, 30 km, ça paraît rien du tout. Et du coup, peu importe ce que l'État peut essayer de faire à ces gens, ça ne les dissuadera pas. J'ai parlé avec certains vétérans d'Afghanistan qui avaient été interprètes, du coup, pour nos armées, pour la coalition, et qui disaient que, il avait été trimballé à droite à gauche, renvoyé en Roumanie, des gardes à vue interminables, etc. Il avait son petit papier disant « Oui, j'ai travaillé, je me suis battu pour le Royaume-Uni. » Et impossible de le faire reconnaître. On ne le laissait pas traverser de manière sûre et légale. Et il nous a dit très clairement « J'ai plus rien à perdre. Demain, je traverse. Soit je réussis, je suis en Angleterre. Soit je suis au fond de la Manche. »
Un peu désespéré, évidemment.
Mais oui, la politique qu'on a avec ces gens est inhumaine. On leur met la pression, on se servir des conditions, une violence physique, une violence psychologique. Tous les matins, être réveillé au petit matin, et pour voir la police, du coup, voler des tentes, justement devant des enfants de 4 ans. Est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on fait? Et de toute façon, cette souffrance, elle sera de toute façon minime comparée à ce que ces gens fuient, à ce qui les a poussés sur la route, à quitter leur pays, à devenir des exilés. On ne peut pas continuer à se dégrader, perdre notre honneur comme ça à Calais.
Alors le rôle d'une association, alors déjà une petite présentation de ce collectif, en fait cette association qui est une ONG, quel est son rôle, j'imagine, un petit peu partout dans le monde?
Alors non, on est présent seulement en Europe. Il y a deux branches qui sont dans les Balkans et une branche à Calais qui est la plus récente. Nous sommes une ONG nous sommes spécialisés dans les NFIs, les denrées non alimentaires. Du coup, on va s'occuper de distribuer tout ce qui va être non alimentaire, des tentes, des couvertures, des vêtements, aussi des produits d'hygiène. On s'occupe, nous, principalement des hommes adultes. Il y a à Calais tout un environnement très riche, tout un maillage associatif qui permet de du coup, référer les gens. Si on voit quelqu'un qui a besoin d'aide médicale, on sait qu'il y a d'autres ONG pour ça. S'il y a des femmes, s'il y a des familles, des enfants ou des mineurs isolés, on peut du coup envoyer les gens vers le service dont ils ont le plus besoin.
Vous qui étiez sur le terrain encore, il y a encore quelques jours, j'imagine, vous êtes de rentrer à Thonon. Vous allez peut-être y retourner d'ailleurs au passage, peut-être, parce que ce qui est prévu pour vous. Mais quels sont Les solutions, on a un peu de mal à les apercevoir, mais à votre avis, vous qui êtes très au courant de tout ça, où est-ce qu'on peut arriver avec cette situation? Parce qu'on imagine bien que ça ne peut pas durer encore des années et des années comme ça.
Moi, j'y suis allé en tant qu'humanitaire. Mon ONG faisait du coup de l'humanitaire, c'est-à-dire une réponse d'urgence sur les principes historiques de l'humanitaire qui sont l'impartialité, la neutralité et l'universalité. Il y a un besoin, il y a des gens qui dorment dehors, maintenant il commence à faire très froid, on a un risque d'hypothermie, il y a des gens qui peuvent potentiellement être en danger de mort s'ils dorment dehors sans aucune forme d'abri. Nous, les ONG, on y va, on est dans l'urgence, le but ça va être d'abréger, de réduire au maximum la souffrance qu'il y a en ce moment. On sait très bien que ce n'est pas nos actions, ce n'est pas en distribuant quelques tentes, quelques sacs de couchage que ça va...
Ça règle le problème, mais de manière provisoire, bien sûr.
Toutes les ONG, là-bas, c'est là ce qui devrait nous alerter. C'est du coup sur toute la faillite qui nous a menés là. Médecins sans frontières, Action contre la faim, ont désormais des antennes à Calais. Calais est devenu un centre d'opération pour les ONG, qu'on retrouve d'habitude en Centrafrique, oui. Qu'on retrouve d'habitude en Afghanistan.
En France, ouais.
Sur le sol français, MSF et Action contre la faim se disent « c'est une crise humanitaire » et ils ont raison. Là, ce qu'il nous faut, ce que plusieurs personnalités ont déjà commencé à réclamer, c'est des voies légales et sûres vers l'Angleterre.
C'est-à-dire que, à condition aussi que les Anglais acceptent naturellement, parce que si on les laisse traverser dans des conditions sûres, mais qui arrivaient à l'autre bout sur les côtes en face, on leur demande de faire demi-tour, donc on n'a pas gagné grand-chose.
Alors, le refoulement est illégal. Et ce qui pose grandement problème dans la situation à Calais, c'est par exemple les accords du Touquet, qui font que la frontière britannique est sur le sol français. C'est quelque chose sur lequel la France peut faire pression. Demander des voies sûres et légales, c'est par exemple, on parle souvent dans le langage de tous les jours de réfugiés, de migrants illégaux. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a fait une demande d'asile, qui a été accepté. Un demandeur d'asile, lui, on dit des fois, mais il faut qu'il arrive sur le pays de manière légale. Un demandeur d'asile ne peut pas rentrer illégalement sur un territoire. Quand on fuit et qu'on traverse une frontière, peu importe la manière dont on le fait, si on ne se présente pas à la frontière ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Une fois que la demande d'asile est déposée, on considère qu'on est là légalement sur le territoire. Ça, c'est dans la Convention des droits de l'homme. C'est des statuts qui sont mondiaux, universels. Du coup, l'idée, ce serait de forcer les Anglais, qui se protègent derrière le règlement de Dublin, qui du coup disent « mais nous, on n'est pas un pays de première entrée », de dire « mais voilà, les gens qui ont envie de déposer une demande d'asile au Royaume-Uni peuvent le faire et sans mettre leur vie en jeu ». Parce que là, nous, ça arrive la fête de Noël, on se dit, si on passait un petit week-end à Londres, on sort notre passeport, une centaine d'euros, on est de l'autre côté de la Manche. Eux, c'est des milliers d'euros, des fois, et c'est leur vie qu'ils mettent en jeu.
Oui, souvent, ils ont été certainement leurrés par des passeurs qui sont en fait des organisations mafieuses, en fait.
Ah oui, mais c'est en l'absence, c'est la fermeture du coup de toutes ces organisations souterraines. On n'aurait pas besoin de toutes ces morts. Les frontières tuent, et ça, c'est pas rendre l'environnement aussi hostile que possible à Calais pour dissuader et infliger de la détresse, c'est la stratégie de l'État.
D'accord. Alors, évidemment, pour l'instant, je ne sais pas vous qui allez les avoir non plus, les solutions, mais est-ce que toutes ces organisations non gouvernementales ont esquissé ou présenté peut-être des solutions aux États, et à l'État français en particulier?
Alors, la plupart des ONG à Calais ne s'occupent pas de plaidoyer ou de trouver de grandes solutions à la crise, même si justement, il y a ces idées qui sont lancées d'ouverture de voies légales et sûres, de mise en place d'un corridor humanitaire, de remise en cause des accords du Touquet. Non, là, sur le terrain elle-même, sur à Calais, sur comment immédiatement, dans les jours qui viennent, permettre d'abréger toutes ces souffrances qui se passent, il y a eu des idées qui ont été lancées, notamment au médiateur pour la grève de la faim, qui étaient des idées très concrètes et à mettre en place immédiatement. Il y a le respect de la trêve hivernale, pour les personnes qui sont en situation de migration, qui dorment dehors, c'est-à-dire plus d'expulsion du 1er novembre
au 1er mars. Comme ça se passe en France, d'ailleurs.
Ce qui se passe normalement en France, mais qui n'est pas appliqué aux personnes qui dorment dehors, qui n'ont déjà rien. L'arrêt des vols et des destructions de matériel pendant la trêve hivernale, du coup que si la police trouve une tente, une bâche, un sac de couchage, ils ne soient pas confisqués pour être mis à la déchetterie, ou qu'ils ne soient pas tout simplement détruits avec une pelleteuse ou lacérés par des sociétés de nettoyage privées. Et enfin, l'ouverture d'un dialogue avec les ONG. Là, on a besoin, par exemple, de réquisitionner, de faire en sorte, par exemple, que le plan grand froid soit activé de manière plus efficace, au lieu que, justement, les conditions climatiques soient instrumentalisées en attendant la première neige ou un coup de glas pour, justement, dire « ça va les faire partir ».